L'amour est un sujet qui a déjà fait couler des tonnes d'encre. Dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Jean qui en parle le plus. Dans le troisième chapitre de sa première épître, il écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Verset 18. L'amour entre frères et sœurs dans l'Église est la continuation de l'amour qui devrait régner dans un foyer chrétien. En famille, on peut parler d'amour, mais qu'il soit question de belles paroles ou de ce qui se passe dans la chambre à coucher, ce n'est pas aimer au sens du Nouveau Testament. L'amour, c'est monsieur qui se lève à 5 heures du matin pour aller travailler et pourvoir aux besoins des siens. L'amour, c'est madame qui s'assure que rien ne manque à sa famille, et même si elle aussi travaille à l'extérieur, elle s'occupe aussi de son mari et de ses enfants. Elle se donne sans compter du petit matin au grand soir, à l'image de la femme qui est décrite dans le dernier chapitre du livre des Proverbes. Ce passage extraordinaire décrit les activités multiples et bénies de la femme attachée à ses devoirs d'épouse, de mère de famille et de maîtresse de maison. Je vais en lire une partie. « Heureux celui qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle, il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Parce qu'elle sait bien gérer les dépenses du ménage, cette femme est une bénédiction et une faveur de l'Éternel pour son mari. Elle est vraiment sa moitié, son complément et son aide. » Elle cherche avec soin du lin et de la laine, et elle les travaille de ses mains joyeuses. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Cette femme ne se laisse pas arrêter par le fait que les denrées dont elle a besoin ne sont pas disponibles près de chez elle. Elle prend l'initiative et les fait venir. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Quand j'étais enfant, je ne me suis jamais levé alors que ma mère était encore au lit. Elle était debout de très bonne heure pour organiser sa journée et le petit déjeuner était toujours prêt et une fois que nous étions partis à l'école, elle partait faire ses courses. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Cette femme fait coudre des habits pour les pauvres. Cette preuve d'amour pour les démunis explique la bénédiction qui repose sur sa maisonnée. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Bien que cette femme soit entreprenante et compétente, elle est noble et respecte son mari, élevant son statut aux yeux des responsables de la cité. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Aimable et généreuse, cette femme sème le bonheur partout. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les dépasses toutes. L'une des manières de la femme vertueuse de manifester son amour est la compassion pour les démunis. C'est le sujet de la parabole du mauvais riche et de Lazare, une histoire qui nous met mal à l'aise parce qu'elle semble dire que si sur la terre, la vie n'est pas juste, dans l'au-delà, tout sera rééquilibré. Si tout va bien pour vous ici-bas, vous avez une réservation en enfer. Mais si vous êtes un SDF, une place vous attend au ciel. Cette parabole est la troisième d'une trilogie et semble être dirigée contre les Sadducéens parce qu'ils étaient très riches et ne croyaient pas en la résurrection des morts. C'est comme si Jésus leur disait « Je vais vous raconter l'histoire de deux hommes. L'un servait Dieu et l'autre, Mammon, le dieu de l'argent. » Cette parabole comprend quatre scènes. Le mauvais riche est le sujet des scènes 1 et 4 et Lazare apparaît dans les scènes centrales 2 et 3. On peut aussi scinder cette histoire en quatre scènes qui sont réjouissances et souffrances sur Terre, puis réjouissances et souffrances dans l'au-delà. Je commence à lire cette histoire dans le chapitre 16 de Luc. Il y avait un homme riche qui se revêtait toujours, vêtu de pourpre et de fin lin, des habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. La première scène décrit succinctement et avec brio un homme riche qui se donne à fond au plaisir de ce monde. Il ne se soucie que de lui-même. Le temps du verbe « se revêtait » montre que c'était son habitude quotidienne de s'habiller de pourpre et de fin lin. Le pourpre était très onéreux et seuls les vrais riches pouvaient s'offrir un tel luxe. Cet homme voulait que tout le monde sache qu'il était immensément riche. Le mot pour fin lin décrit du coton égyptien de grande qualité, utilisé pour les meilleurs sous-vêtements. Non seulement cet homme s'habillait avec une robe extérieure très onéreuse, mais au cas où quelqu'un serait intéressé, il portait également ce qui se faisait de mieux en sous-vêtements. À côté de sa garde-robe, cet homme faisait la fête tous les jours, ce qui veut dire qu'il ne respectait pas le sabbat. Ses serviteurs n'avaient jamais un jour de repos et donc, chaque semaine, il enfreignait publiquement les 10 commandements. Son style de vie excentrique et somptueux était plus important que la loi de Dieu. Cette injustice qu'il infligeait à ses serviteurs ne lui importait pas du tout. Je continue. Un pauvre, nommé Lazare, était placé allongé devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Versets 21-22. Chaque jour, on apportait devant le portail de la villa du mauvais riche une loque humaine, un mendiant qui avait faim et qui était malade. Il s'appelait Lazare. Mais pourquoi ce nom? De toutes les paraboles de Jésus, il est le seul personnage qui ait un nom alors que tous les autres sont anonymes. Lazare est l'exception, ce qui signifie que son nom est important. Il veut dire « celui que Dieu aide ». Lazare était couché jour après jour devant l'entrée de la somptueuse villa et des serviteurs lui donnaient probablement des restes à manger, mais en cachette et donc pas suffisamment. Il était tellement malade qu'il ne lui était pas possible de se tenir debout et ne pouvait que mendier. À première vue, il était plutôt un homme que Dieu n'aidait pas. Pourtant, tous les matins, des membres anonymes compatissant de la communauté, de sa famille ou des amis le portaient là, devant cette villa, et le ramenaient le soir, on ne sait pas où. Les gens qui s'occupaient de Lazare faisaient tout leur possible, mais la seule personne vraiment capable de lui venir en aide était le mauvais riche ou l'un de ses invités. Alors, en le plaçant à la vue de tous, les amis anonymes espéraient que quelqu'un aurait pitié et un peu de compassion envers Lazare et lui donnerait au moins quelque chose à manger. Tout ce que Lazare désirait était des restes, mais il n'en obtenait pas suffisamment. C'est le sens de la phrase. Il semble que le mauvais riche préférait jeter aux chiens charognards les restes de ses repas plutôt que de les donner à Lazare qui avait faim et qui était malade, mais qui souffrait surtout de se sentir abandonné et méprisé. Il voyait des gens bien repus aller et venir et qui faisaient comme s'ils n'existaient pas. Les chiens charognards qui traînaient dans les rues et qu'on chassait à coups de bâton étaient amicaux envers Lazare et chaque fois qu'ils le voyaient, ils venaient lécher ses plaies. Cette scène sert à décrire la camaraderie entre le mendiant et les chiens car ils avaient en commun d'être maltraités. Les chiens avaient de la compassion pour cet homme malade et ils étaient pour lui des compagnons et ses infirmiers. Le mauvais riche était vêtu de pourpre et de fin lin, Lazare couvert de plaies purulentes, le riche se donnait un banquet tous les jours, Lazare avait toujours faim, le riche était entouré de serviteurs, Lazare de chiens. Je continue. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Lazare a été enterré sans tambour ni trompette par ses amis dans une fosse commune réservée aux pauvres. Il n'a pas eu droit à des funérailles ni à un discours pompeux. Par contre, les anges se sont déplacés et l'ont emporté dans le sein d'Abraham et organisèrent une fête en son honneur. Je continue. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Avant la résurrection du Christ, le séjour des morts avait deux sections, le sein d'Abraham et l'enfer. Peu de temps après la mort de Lazare, le mauvais riche mourut et on peut être sûr qu'il eut droit à des funérailles dignes de son rang. Mais il s'est retrouvé en enfer. Le contraste entre le sort de ces deux hommes continue dans l'au-delà. On remarquera que le mauvais riche reconnaît Lazare et connaît son nom, ce qui veut dire qu'il savait qu'il était couché devant son portail, affamé et couvert de plaies. Va-t-il demander pardon pour son indifférence et sa cruauté à son égard? Pas du tout. Je continue. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » C'est incroyable. Mais le mauvais riche ne s'adresse pas à Lazare parce qu'il ne parle pas au paria. Il apostrophe donc Abraham, son patriarche, et fait jouer sa carte raciale, car il est israélite, circoncis, un vrai, un pur. Ça ne peut que marcher, parce qu'au Moyen-Orient, la famille est le dernier des refuges, et il est sûr. Quand un membre est dans le besoin, il va voir le chef de clan qui, pour sauver l'honneur, est obligé d'intervenir. Après avoir rappelé le lien familial, le mauvais riche lance le cri habituel du mendiant « Aie pitié de moi ». Quand Lazare souffrait, le mauvais riche était indifférent, et maintenant que lui souffre, il faut faire quelque chose tout de suite. Au lieu de demander pardon à Lazare, il veut que celui-ci vienne lui rendre un service. C'est tout juste s'il n'a pas dit « Maintenant que Lazare va mieux et peut marcher, j'ai besoin de lui ». Le mauvais riche ne tient aucun compte que Lazare est l'hôte d'Abraham et il est toujours aussi arrogant qu'il était de son vivant. Il n'arrive pas à se représenter un monde sans classe sociale et où il n'est pas au sommet de l'échelle. Comment va réagir Lazare? La parabole lui donne la parole et il serait en droit de se fâcher tout rouge. Mais il ne réagit pas. Il ne se plaignait pas quand il était allongé devant la grille de la villa et n'a donc aucun désir de vengeance. Il est toujours aussi doux et débonnaire. Je continue. Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as reçues pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, et toi, tu es dans les tourments. » Abraham reconnaît que le mauvais riche est un Israélite, mais il lui répond avec le cri habituel du prophète, « Souviens-toi que tu as reçu beaucoup, et Lazare, que des malheurs, et maintenant il est consolé, et toi tu souffres. » Ces quatre rappels correspondent aux quatre premières scènes de la parabole. Tout ce que le mauvais riche possédait venait de Dieu. Le verbe « reçu » est à la forme passive. Le riche n'a donc rien mérité. Lazare n'est pas décrit comme guéri ou bien nourri, mais consolé. C'est-à-dire qu'on s'occupe de lui. Il n'a plus à endurer les sons joyeux des banquets qui produisent des ordures qu'ils voudraient tellement manger, mais qui sont jetés aux chiens. L'indifférence et le mépris du mauvais riche et de ses invités à son égard étaient pour lui le plus dur à vivre. Sa principale souffrance était d'ordre psychique. Abraham continue. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. L'existence de l'abîme est facile à comprendre. Mais pourquoi mentionner l'impossibilité pour quelqu'un d'aller du paradis à l'enfer? C'est qu'Abraham a un volontaire et il ne peut s'agir que de Lazare. Tout porte à croire que ce dernier a demandé s'il pouvait apporter un peu d'eau à son ancien voisin. Non seulement Lazare ne lui en veut pas, mais il éprouve de la compassion pour lui. Le mauvais riche change alors de sujet. « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Une nouvelle fois, le mauvais riche prend l'attitude du mendiant. Il est noble de sa part de penser à ses frères, mais d'un autre côté, il se soucie de ceux qui appartiennent à la même classe sociale supérieure que lui, tandis que les démunis ne comptent pas. Si Lazare ne peut pas être son garçon de café, il pourrait au moins faire le coursier envers ses supérieurs, comme les 5 frères. Reconnaître ses torts et demander pardon ne viennent toujours pas à l'idée du mauvais riche. Sa vision du monde est intacte, structurée en classe des serviteurs qui servent leur maître. Je continue. « Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. » Au 1er siècle, entre 3 et 10% de la population de Palestine savait lire. Les Juifs pieux pouvaient écouter la lecture de la loi et des prophètes à la synagogue. Or, l'un des enseignements qui revient fréquemment est la compassion envers les pauvres. Le mot pour écouter signifie aussi obéir. Mais le jour du sabbat, le mauvais riche était trop occupé à faire la fête et ses frères probablement aussi. C'est leur problème. Ils n'ont qu'à écouter la loi et lui obéir. Mais le mauvais riche n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Alors, il insiste. « Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. » Le mauvais riche contredit Abraham et tente de le corriger comme s'il était son serviteur. Cette demande est assez incroyable puisque le mauvais riche pouvait voir Lazare bien vivant sans pour autant se repentir. Au contraire, il a demandé à être servi par lui, d'abord comme garçon de café et ensuite comme coursier. Tout ce que le mauvais riche désirait, Lazare était supposé lui apporter sur un plateau d'argent et sur le champ. Malgré sa situation et tout ce qu'il voyait, aucune des attitudes arrogantes du mauvais riche n'a changé. Il n'y a donc aucune raison de penser que ses frères modifieraient leurs croyances ou leur façon de vivre à la vue d'un ressuscité. Abraham conclut ce dialogue. Mais Abraham répliqua, « S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. » Après la résurrection d'un autre Lazare, les chefs religieux et le grand prêtre en exercice n'ont pas changé d'un poil. Au contraire, cette nouvelle les a confortés dans leur désir de mettre à mort Jésus. C'est bien de rechercher des preuves historiques qui soutiennent la foi, mais la connaissance de Dieu et de Jésus comme sauveur échappe à toute investigation intellectuelle. Cette parabole rappelle que l'abîme qui sépare les ultra-riches des plus bas que terre reflète une injustice obscène. Le lecteur est encouragé à œuvrer pour une société plus juste où les démunis sont pris en compte au lieu d'être simplement des statistiques. Le mauvais riche est décrit comme une brute épaisse, infectée par l'orgueil de sa race, qui a utilisé ses richesses pour sa propre satisfaction. Il n'avait que faire des autres, de ses serviteurs, des pauvres, de sa communauté et de Dieu. Même après la mort, il considérait toujours Lazare comme inférieur. Son arrogance n'a d'égal que sa méchanceté. Lazare était misérable et souffrant sans que la raison nous en soit donnée, sinon que la vie n'est pas juste. Il ne se plaint pas de son sort, ni de ses mauvais traitements, car il accepte sa condition. Il n'est pas aigri, mais patient, et place son espérance en Dieu. Son silence, avant et après sa mort, est éloquent et impressionnant. Au ciel, il ne pavoise pas et ne proteste pas contre les demandes du mauvais riche. Dieu a toujours été avec lui. Certaines personnes le déplaçaient chaque jour et les chiens errants étaient ses amis. Puis, les anges et Abraham ont pris la relève. Le point focal de cette parabole n'est pas le renversement des rôles entre Lazare et le mauvais riche, mais consiste à donner un sens chrétien à ma vie par ma réaction face à ce qui m'arrive, en bien ou en mal. Une autre leçon de cette histoire est qu'il faut invoquer le Seigneur ici-bas et sa révélation écrite est suffisante pour le connaître. Une fois franchi les portes de la mort, il est trop tard.